Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au lien entre sport et politique. Retour essentiellement sur la tragédie du 5 septembre 1972 à Munich. On a en tête les Jeux de Berlin 1936. L'Allemagne rafle 89 médailles, loin devant les États-Unis. C'est la grande parade hitlérienne que va contrecarrer le grand champion américain Jesse Owens, 4 fois vainqueur, et qui montre sa satisfaction de démontrer la supériorité d'un nègre sur les Aryens. On se souvient tous, le 16 octobre 1968 à Mexico, des deux sprinteurs noirs américains Tommy Smith et John Carlos, médaillés d'or et de bronze sur 200 mètres, levant le poing pendant l'hymne national américain pour protester contre la ségrégation raciale aux États-Unis. On retient Smith et Carlos, mais deux jours après, le 18 octobre 1968, Lee Evans, Larry James et Ron Freeman montent sur le podium du 400 mètres plat avec le béret des Black Panthers, l'une des plus importantes et des plus radicales organisations de lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis. Nous sommes aux Jeux Olympiques de Munich 1972, et Ulrike Meifert, jeune Allemande de 16 ans, devient championne olympique du saut en hauteur féminin avec un saut de 1,92 m. C'est la plus jeune championne olympique. Nous sommes à Munich, ce 4 septembre 1972. Le monde découvre le corps harmonieux d'une collégienne de 1,84 m qui établit un nouveau record du monde. Elle réitérera son exploit 12 ans après en devenant championne olympique. En 1984, à Los Angeles, devant la star de l'époque, l'italienne Sara Simeoni. Ce saut de Meifert va donc faire l'histoire. Mais Munich 1972, c'est aussi autre chose. Le jour d'après, celui qui suit l'exploit de Meifert. Les Jeux se déroulent parfaitement durant les 10 premiers jours. L'Allemagne espère faire oublier ceux de 1936. Rien ne laisse présager qu'ils seront le théâtre de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire olympique, l'athlétisme au cœur des tourments de l'histoire. Il est 4h30 du matin, le 5 septembre 1972. 8 Palestiniens, membres de l'organisation Septembre Noir, déjouent la surveillance des vigiles et s'introduisent dans le village olympique. Le commando force les portes des appartements israéliens. Une fois à l'intérieur, c'est un carnage. Ils tuent 2 membres de la délégation israélienne qui résistent et en prennent 9 autres en otage. Seul l'entraîneur de l'équipe nationale d'haltérophilie échappe aux fanatiques en sautant d'une fenêtre. Leur objectif ? Obtenir la libération de 200 Palestiniens détenus en Israël. En attendant, le gouvernement allemand, dirigé par le chancelier Willy Brandt, cède aux revendications des terroristes. Ces derniers exigent que l'Allemagne mette à leur disposition un avion pour s'envoler avec leurs otages vers un pays arabe. Mais il n'en est pas question, pour Golda Meir, la première ministre israélienne, de négocier. Après 12 heures de négociations, les ravisseurs montent à bord de 3 hélicoptères qui les déposent à l'aérodrome militaire dans la banlieue de Munich, où les attend un Boeing 727. Aux grandes dames des militaires, la police bavaroise décide de donner l'assaut. Résultat de la tragédie, 9 prisonniers israéliens, 5 des 8 membres du groupe palestinien et 1 policier sont tués sur le tarmac. Le Mossad israélien n'aura de cesse de venger Munich en prenant pour cible des responsables de l'OLP. Malgré cette tragédie de 17 morts et cette intrusion violente du conflit israélo-palestinien en plein milieu des Jeux, la réaction du mouvement olympique avec à sa tête Avery Brundage est minimale. Comme si rien ne s'était passé. Les compétitions reprennent dès le 6 septembre au soir, après une cérémonie d'hommage bâclée. La Palestine, qui n'a toujours pas d'État, est membre du CIO depuis 1994. Aujourd'hui, la Palestine, 5 millions d'habitants, 6 000 km², même superficie que les départements de Haute-Garonne, est reconnue par 135 États dont le siège du gouvernement se situe à Ramallah, tandis que la capitale revendiquée est Jérusalem-Est, un territoire administré par Israël. La reconnaissance olympique en 2012 aux Jeux olympiques de Londres de la Palestine fonctionne donc comme une revanche sur l'histoire. La proclamation de l'État d'Israël en mai 1948 avait conduit le CIO à ne plus inviter l'équipe de Palestine aux JO de Londres 1948. Et pour éviter un boycottage des nations arabes, il ne convie pas la délégation israélienne au motif que cet État ne disposait pas d'un comité national olympique reconnu. En athlétisme, Munich 1972 marque 3 doublés marquants. Le russe Valery Borsov qui remporte les 100 et 200 mètres masculins. L'allemande de l'Est Renate Steicher qui remporte les 100 et 200 mètres féminins. Le finlandais Lasse Wiren qui réussit le doublé 5000-10000. Deux athlètes noirs américains, Vince Matthews et Wayne Collette, premier et deuxième du 400 mètres plat, sont exclus des Jeux olympiques pour attitude jugée insultante durant l'exécution de l'hymne américain. Ulrike Melfart est née le 4 mai 1956 dans une famille modeste de Wesseling, près de Cologne. Elle était attirée par l'athlétisme quand elle vit sauter à la télévision Dix Fogbury, le vainqueur du saut hauteur masculin de Mexico 1968 avec un bond de 2,24 m et inventeur de cette nouvelle façon de sauter sur le dos, qui tourne le dos à la technique du rouleau ventral, chère aux écoles des pays de l'Est. Après Munich, Melfart connaîtra une période d'oubli, mais le sculpteur Arno Brecker, qui réalisa les sculptures monumentales du stade olympique de Berlin 1936, l'immortalisa dans la pierre à l'égal d'un hormis. Melfart renaîtra en portant le record du monde à 2,03 m en 2003, avant le sacre de Los Angeles l'année suivante. En saut en hauteur, l'actuel record du monde est toujours détenu par la Bulgare Stefa Kostadinova, avec un saut à 2,09 m établi au championnat du monde de Rome en 1987. C'est l'aboutissement d'une filière bulgare avec sa compatriote Tamara Bikova. En 2003, Kostadinova est devenue ministre des Sports de la Bulgarie. En son temps, les années 1960, la Roumaine de Timișoara, Yolanda Balas, aura dominé outrageusement la spécialité, portant le record du monde de 1,75 m à 1,91 m. Elle deviendra présidente de la Fédération roumaine d'athlétisme après la révolution de 1989. Ces dernières années, on retiendra la Croate Blanka Vlasic, avec un record à 2,08 m. Elle est double championne du monde, a obtenu la médaille d'argent à Pékin 2008 derrière la Belge Tia Yelbo. Elle a souffert, comme un tiers des jeunes femmes à Split, d'hyperthyroïdie, qui serait une conséquence des bombardements de la guerre opposant en 1992 la Croatie et la Serbie. Sa principale adversaire était l'Allemande Ariane Friedrich, connue pour son énergie débordante. Leur confrontation et opposition de style rappellent ceux du duel opposant à la fin des années 1970 l'Allemande de l'Est, Rosemarie Ackermann, première femme à 2 mètres en 1977, réalisée en rouleau ventral, et l'Italienne Sara Simeoni, adepte du Fosbury ou du saut sur le dos. Le record de France féminin à 1,97 m est la propriété de Mélanie Melfort, 1 cm de mieux que le saut de Marie Zévangépé, actuelle journaliste, consultante et spécialiste de l'athlétisme, auteur d'une biographie sur Jesse Owens. Le saut en hauteur, ce sont des centimètres gagnés difficilement qui définissent le temps qui passe. L'écrivain belge Géo Norge le rappelle dans « Du temps », dans l'eau du temps qui coule à petit bruit, dans l'air du temps qui souffle à petit vent, dans l'eau du temps qui parle à petits mots et sourdement touche l'herbe et le sable.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.